j'ouvre la session du colloque et, de ce matin, session qui est appelée soumission et cohabitation. Et j'ai le grand honneur de présenter, je vais les présenter successivement, trois orateurs de la matinée, en commençant par Anne Neff, qui est professeure d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'UMR Orient et Méditerranée, et très grande spécialiste, pour ne pas dire peut-être la plus grande spécialiste de l'histoire de la Sicile, en tous les cas en France, avant et pendant la période des Hauts-de-Ville. Et je dirais qu'il paraît impossible d'étudier l'histoire de la Sicile pendant la période normande sans avoir lu ses travaux. En particulier, peut-être, je le citerai, parce qu'en plus les termes résonnent vraiment avec le colloque, « Conquérir et gouverner la Sicile islamique au XIe et XIIe siècle », publié à l'École française de Rome en 2011. Mais depuis, Anne-Lise, tu as publié un grand nombre d'articles, de monographies, non seulement sur la Sicile, mais plus largement aussi sur l'islam médiéval, dont tu es spécialiste, et le montre bien, en particulier, pour ne citer qu'un seul exemple, ce qui est peut-être ta dernière monographie publiée et qui s'intitule « Révolution islamique, émergence de l'islam en Méditerranée, 7e, 10e siècle », donc publiée en 2021. Et tu vas nous parler donc du sujet suivant, les Hauts-de-Villes et la pacification de la Sicile et de l'Ifriqiya. Et je te donne la parole.
Merci beaucoup, merci pour cette présentation et merci pour l'invitation qui m'a permis de découvrir Cerisy et ce matin la laiterie. Alors je précise tout de suite que je ne parlerai pas de Livaro, mais je vais... partir vers d'autres horizons, des horizons donc méridionaux et même plus précisément islamiques et ifriqiens. Alors évidemment, quand on parle de pacification, la première chose, enfin en tout cas à laquelle moi je pense, alors depuis hier je pense aussi au Tonkin, mais jusqu'à maintenant je pensais surtout, il faut le dire, à l'Algérie et donc aux relations entre la France et l'Algérie. Alors nous verrons que la politique des Hauts-de-Villes en Sicile et en Ifriqiya n'a pas grand-chose à voir avec cette période noire de l'histoire de France, heureusement. Mais il m'a semblé intéressant, en fait, de m'interroger sur la manière dont les Hauts-de-Villes ont traité leurs ennemis musulmans et les ont soumis dans une période, vous le savez, qui est une période de croisade et où donc les tensions, hein, les oppositions entre chrétienté et islam sont particulièrement fortes. Il m'a semblé que comparer de ce point de vue la prise de contrôle de la Sicile et celle de l'Ifriqiya permettait de mettre en exergue tant des points communs que des différences qui tiennent au contexte, aux finalités des opérations dans ces deux cadres. Alors, je dis tout de suite que je parlerai surtout de l'Ifriqiya, parce que je ne peux pas parler exhaustivement des deux, mais que je me servirai de la Sicile un peu hein, comme un point de comparaison. Alors, je dis aussi tout de suite, mais il me semble que c'est ce qu'on a vu depuis hier, qu'il est assez difficile de dégager une théorie de la conquête et du gouvernement post-conquête à partir de la documentation conservée, si tant est que cette théorie ait existé d'ailleurs, hein, ce qui n'est pas du tout sûr. En revanche, on peut dégager, c'est ce que je vais essayer de faire, des récurrences, des constantes, en dépit donc de différences contextuelles. Je dis tout de suite que je m'appuierai essentiellement sur des chroniques arabo-musulmanes, postérieures aux événements, hein, qui datent en gros des fin 12e, début 13e siècle, et ponctuellement d'autres sources que je citerai au fur et à mesure. Alors, je rappelle simplement que l'historiographie sur la présence des Hauts-de-Villes en Ifriqiya n'est pas nouvelle. Hein. J'ai mis ici quelques grands noms dans l'ordre alphabétique, hein, je le précise. C'est le seul ordre qui prime ici. Et je voulais quand même mentionner, parce que je m'en suis servi qu'il est utile, la publication récente de Matt King, voilà, qui... vous avez le titre, donc c'est pas peine que j'écorche l'anglais, qui est très utile, qui fait une synthèse, qui apporte quelques idées, me semble-t-il, nouvelles, que je soulignerai au fur et à mesure. Alors, je vais commencer quand même par une petite mise en contexte, parce que j'ai peur que peut-être tout le monde ne connaisse pas la situation. Donc, je vous ai mis ici une carte hein, qui vous donne une idée de la proximité entre les deux régions, ce qui a vraiment une importance. J'ai peur qu'on ne la lise pas des masses, mais j'en reparlerai un peu plus loin. Alors, d'abord, on a, quand on compare la Sicile et l'Ifriqiya, dans leur rapport aux Hautes-Villes, un contexte différent et une consistance distincte, si je puis dire, de la présence des Hautes-Villes dans les deux régions. Du point de vue qui nous intéresse, la principale différence réside dans le fait que, bien que les Normands aient été appelés en Sicile, comme vous le savez, par un chef arabo-musulman en conflit avec d'autres, au début des années 1060, le contexte, pendant les 30 années qui suivent, est conflictuel. On a des opérations annuelles pour aboutir donc à une prise de contrôle territoriale de la Sicile. Moi, je dis prise de contrôle parce qu'une conquête qui dure 30 ans, bon, j'ai un peu du mal, mais on peut en discuter. Donc, des opérations quasi annuelles. Du côté ifriquien, en fait, les choses sont beaucoup plus progressives, je vais y revenir. Et d'autre part, la présence normande est relativement courte, hein, puisqu'elle s'étend en gros de 1148 à 1160, c'est-à-dire une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas vraiment, de ce point de vue, comparer les deux contextes. Je vais revenir sur trois phases qui amènent à la conquête, parce qu'il me semble que peut-être elles font écho à des choses qu'on a vues dans les jours précédents. La première phase, donc, c'est celle qui va de 1087 à 1123. Vous voyez le titre que je lui ai donné. En gros, ce qui la caractérise, ce sont des relations intenses entre les Zirides, qui sont donc la dynastie principale qui, à l'époque, évolue en Ifriqiya. Et je précise tout de suite, pour ceux qui ne sont pas familiers du contexte, que les Zirides ont été mis en place par les Fatimides lorsqu'ils ont quitté l'Ifriqiya pour l'Égypte en 973, et qu'ils sont sortis de l'orbite fatimide, c'est important pour nos affaires, en 1050, qu'ils ont été punis pour avoir fait, pour être sortis de cette allégeance, et qu'on leur a envoyé des groupes arabes sur leur territoire, qui en fait ont abouti à un morcellement du pouvoir politique en Ifriqiya. Ça veut dire que les tribus arabes tiennent le pays, les Zirides ne tiennent au mieux que des points côtiers, sinon on ne comprend pas la politique des hautes villes dans la région, et ils ne les tiennent même pas tous. Mais j'insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, cette première période au moins ne se caractérise pas par un affaiblissement tel des Zirides qu'il n'ait plus aucun rôle dans la zone. Parce qu'on a souvent dit que l'arrivée de ces tribus, appelées invasion hilalienne, les aurait mis hors jeu et que, en fait, les hautes villes n'auraient pas eu beaucoup de mal à s'installer. En fait, les choses apparaissent assez différentes. Les Zirides sont relativement puissants encore à l'époque, et on a une sorte d'équilibre entre une puissance émergente qui est celle des hautes villes en Sicile et une puissance, certes morcelée, mais réelle, des Zirides. Alors, je vous ai mis ici les trois villes qu'ils tiennent, je ne les répète pas, mais vous voyez que vous avez un certain nombre d'autres villes importantes qui sont tenues en fait par des dynasties locales, sur lesquelles je ne reviens pas. J'ai emprunté l'expression « cité-État » à Michael Brett, elle n'est pas de moi, mais dans les faits, c'est en gros de cela qu'il s'agit. Dans les faits aussi, il est vrai que les Zirides sont la dynastie la plus puissante de la région et que c'est eux qui dominent le jeu régional. Donc, dans un premier temps, la situation se caractérise par le refus des Hautes-Villes de prendre part en 1087 à l'opération pisano-génoise contre Mahdia, refus de prendre part à la première croisade, et dans les deux cas, on nous dit qu'ils justifient leur refus par le fait qu'ils ont des alliances avec les Zirides. Donc on est, je le répète, dans une situation d'alliance, de coessor et de cogestion, si on peut dire, de la zone de la Méditerranée centrale. Des moments de tension ont lieu, c'est vrai, mais ils ont plutôt lieu après la régence d'Adélaïde, hein, pour des raisons probablement qui tiennent à ce qu'elle est occupée ailleurs, hein, notamment par des rébellions, et plutôt donc à partir de 1117 et de la majorité de Roger II. Je ne rentre pas dans les détails, je mentionne simplement une affaire, celle de 1123. Donc en 1122, les Almoravides, qui sont la dynastie qui tient la partie occidentale du Maghreb, qui tient également la péninsule ibérique et qui est alliée aussi avec les Irides, les Almoravides donc attaquent Nicotera et les Hauts-de-Villes mettent en place un embargo contre les Irides pour, en quelque sorte, hein, en forme de riposte. Ils vont, en 1123, tenter d'attaquer Madia. Ils attaquent Aldimas, qui est une forteresse près de Madia, et ils sont défaits. Ils sont méchamment défaits. On a des poésies hein, épiques en arabe qui célèbrent le djihad victorieux des Irides. Donc c'est pour vous dire que la situation est vraiment celle d'un équilibre des forces. On n'est pas du tout hein, dans une situation où les Hauts-de-Villes ont le dessus. Entre 1123 et 1142, en fait, les choses sont relativement stables. Les Hauts-de-Villes sont pris ailleurs, ils sont pris en Italie du Sud, hein, pré- et post-passage à la royauté. Ils maintiennent des relations avec les Irides et ils réagissent donc ponctuellement contre les Almoravides. Ils le font en particulier, et c'est le premier moment de leur expansion, en prenant des îles. Et je vais revenir sur cette affaire des îles. Alors, c'est le cas de Malte et Gozo en 1127, dont Malaterra nous dit que pour Malte, elle a été conquise en 1091, mais qui a dû ressortir de cette domination, qui est donc reconquise en 1127. C'est le cas aussi de Djerba. En 1134-1135, à un moment où les Irides ont appelé à la rescousse les Hauts-de-Villes contre une attaque des Hamadides, donc qui sont à Bougie, qui sont leurs cousins, pour faire vite, et Roger en profite donc pour s'emparer de Djerba. Donc s'empare d'un certain nombre de points qui sont des points stratégiques. J'ai oublié de vous dire une chose, en voulant aller trop vite, c'est qu'à la période précédente, il y a aussi un fait qui est extrêmement important. En 1107-1108, alors qu'un nouvel émir Zirid arrive au pouvoir, Georges d'Antioche, originaire de la partie orientale de l'Empire byzantin, va, sous domination islamique à l'époque, et qui a été fait captif avec sa famille par les Irides, va quitter l'Ifriqiya pour la Sicile. Il était en Ifriqiya au sein de l'administration et il va devenir donc une sorte de premier ministre, comme vous le savez, de Roger II. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la zone et qui va être l'artisan de la politique africaine des Hauts-de-Villes dans les années 1140. Donc 1123-1140, je le disais, une situation donc en gros d'équilibre. Les choses changent à partir de 1142. Puisque là, des attaques annuelles ont lieu. Elles sont menées donc justement par Georges d'Antioche, qui est le chef de la flotte. Elles s'intensifient autour des années 1146-1148 et débouchent donc sur la prise de contrôle d'un certain nombre de villes qui vont être tenues jusqu'en 1160. Alors la question, c'est pourquoi cette accélération à cette date? Alors plusieurs éléments peuvent être mis en avant. D'abord, la stabilisation de la dynastie des Hauts-de-Villes, hein, qui sont désormais effectivement relativement puissants dans la zone, et surtout, pour le coup, là, un affaiblissement des Irides qui tient à des sécheresses à répétition, qui déclenchent des famines qui sont décrites comme particulièrement terribles, qui fragilisent le pouvoir Zirides et mettent en fait en question hein, cet équilibre qui était à l'œuvre. Toujours est-il donc que les Hauts-de-Villes s'emparent à l'époque donc, d'un certain nombre de villes. C'est les carrés bleus hein, que vous avez sur la carte. Et ce, jusqu'en 1160, moment où les Almohades hein, vont s'emparer de l'ensemble du Maghreb. Alors, maintenant, j'en viens à mes affaires. Alors, première question, moi j'ai un peu déroulé le questionnaire hein, qui avait été envoyé. Est-ce qu'il y a une idéologie de la conquête? Alors, aussi bien en Sicile qu'en Ifriqiya, la chose a bien été étudiée pour la Sicile, il n'est pas question de croisade ou de pré-croisade. Aucune de ces opérations n'est présentée comme telle. Ceci dit, exactement comme en Sicile, on ne peut pas dire que le christianisme des Hauts-de-Villes, même s'ils ont été beaucoup critiqués pour un christianisme un peu suspect par leurs adversaires, que le christianisme n'est pas important dans cette affaire. Et alors, c'est clair en Sicile, hein, où il y a une politique de christianisation, de re-christianisation, d'abord par un appui à l'Église grecque, mais par la suite aussi une latinisation. On trouve la même chose à l'échelle des 10 ans qui nous occupent ici en Ifriqiya. Ça, c'est particulièrement important et ça a été mis en exergue par Henri Bresque. La différence, donc, c'est qu'ici, l'Église est caractérisée par sa latinité. Alors, des chrétiens sont mentionnés, à Mahdia et à Zawila, hein, qui est la ville jumelle, en gros, de Mahdia, lors de l'intervention des Hauts-de-Villes. D'autre part, on sait par des sources qui sont des sources, alors Robert de Torigny, le continuateur de Sigebert de Jambou en particulier, qu'un évêché est rétabli à Mahdia et qu'un autre évêché, mais qu'on n'arrive pas très bien à localiser parce que le nom ne dit rien, aurait été aussi mis sur pied. Donc ça veut dire que dans l'espace de ce court temps, de ce court laps de temps, hein, il se préoccupe de cette affaire. Et d'autre part, on a conserver un inventaire des trésors de la cathédrale de Mahdia et de l'église Saint-Nicolas, dont on ne sait rien par ailleurs, hein, on ne sait pas où elle était située, un inventaire qui est conservé dans les archives de la chapelle palatine de Palerme et qui est établi vers 1160 au moment du repli sur la Sicile. Je ne rentre pas ici dans les détails, si ça vous intéresse, je peux en reparler tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que, là aussi, pour faire vite, il y a à la cour de Palerme des groupes de chrétiens arabophones qui sont parfaitement à même hein, de faire le lien entre les deux rives. Par ailleurs, en 1127, lors de la conquête définitive de Malte et Gozo, on mentionne l'installation de chrétiens et la création d'un évêché. Donc c'est une politique hein, qui est une politique systématique. Donc on ne peut pas dire que ces espaces deviennent chrétiens du jour au lendemain, mais symboliquement, hein, les mesures qui sont prises sont relativement importantes. Et on verra que par ailleurs, la modification de la fiscalité tend aussi à mettre les chrétiens en exergue. Deuxième point, des règles de conquête similaires. J'enlève le point d'interrogation. Alors, on a vu, hein, le rythme et l'intensité des opérations n'ont rien à voir, mais les règles de reddition en Sicile et en Ifriqiya sont les mêmes. En gros, le sort des localités est meilleur si la reddition se fait sans combat, ou sans combat acharné. Comme en Sicile, les élites vont prêter serment, et vont verser un tribut régulier. Alors, Michael Brett suggère que dans le cas de l'Ifriqiya, dans ce cas précis, donc là où il n'y a pas beaucoup de combats, le tribut est collectif. Ça veut dire qu'en fait, c'est géré en interne par les élites locales. Mais s'il y a combat, ça déclenche un certain nombre de conséquences. Notamment, le pillage de la ville est possible. C'est le cas à Gabès en 1148, hein, où le pillage est autorisé et les habitants qui ont fui la ville se voient imposer une taxe pour pouvoir la regagner. On peut réduire en captivité les hommes et en esclavage les femmes. et les enfants, alors ils ne sont pas mentionnés, mais en général, ça veut dire les femmes et les enfants. À Sousse, et à Sfax, c'est le cas. Et on voit qu'à Sfax, par exemple, on donne la possibilité aux élites de la ville de racheter leurs captifs. En fait, toutes ces pratiques renvoient à des choses qu'on voit avant cette période, en cas d'attaque ou de tension ponctuelle. Pour le cas donc, où l'engagement est difficile, militaire est difficile, la fiscalité serait levée de manière individuelle, toujours selon Michael Brandt. Alors en fait, ce que je décris là, ça reprend en réalité les règles du droit musulman. Il y a dans le droit musulman une distinction très nette entre les villes qui se rendent sans combat et celles qui se rendent avec combat. D'autre part, donc, des otages sont emmenés en Sicile, j'y reviendrai, c'est le cas pour Sfax, et on trouve des choses semblables lors de la conquête de la Sicile. Donc là, on a des parallèles assez clairs. Ce qui est différent, et qu'on ne voit pas au moment de la conquête de la Sicile, mais qu'on voit pour l'Ifriqiya, c'est l'utilisation de lettres d'Aman. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de lettres qui vont assurer la population de sa sécurité, une fois que les choses sont rentrées dans l'ordre, et de la protection des nouveaux maîtres. On n'en a pas conservé trace, mais les sources arabo-musulmanes les citent. Alors, une fois que les choses sont en ordre, si on peut dire, ça ne veut pas dire que les événements suivent un long fleuve tranquille. Des rébellions peuvent avoir lieu. C'est le cas à Sfax en 156-57, suivi de Gabès, de Tripoli, et la seule ville qui ne se soulève pas dans la seconde moitié des années 1150 est Sousse. Alors pourquoi cette série de rébellions ? Probablement la mort de Roger II en 1154 a dû laisser espérer peut-être un sort meilleur. Guillaume Ier mène une politique qui est relativement dure. Et d'autre part, l'espoir soulevé par l'avancée des Almohades depuis l'ouest du Maghreb a dû donc laisser espérer un sort meilleur. Ces rébellions sont réprimées, mais, et là Matt King a raison d'insister sur ce point, les répressions n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir au même moment en Italie du Sud contre des villes rebelles qui sont vraiment soumises par le feu et les armes. Là, on a l'impression que les choses sont quand même beaucoup plus tranquilles, si je puis dire. Autre différence et point commun, le système fiscal en Sicile et en Ifriqiya est, sur le papier, comparable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Là aussi, on reprend les règles du droit musulman, mais on les retourne. Donc on va appliquer le système de la dhimma, c'est-à-dire le système qui était appliqué aux non-musulmans dans l'Empire islamique, mais on va les appliquer aux musulmans. Donc on va lever la taxe de capitation qui souligne l'infériorité religieuse de ceux qui ne sont pas de la religion de référence, donc ici les musulmans. On va leur appliquer donc la taxe de capitation qui était auparavant payée par les musulmans et les juifs. Pour les juifs, ça ne change pas, mais pour les chrétiens, eux en sont libérés et les musulmans vont la payer. Pour le reste, la fiscalité semble demeurer à l'identique. Donc, on a affaire à une mesure qui est clairement symbolique, mais pas symbolique parce qu'elle est bien concrète, mais elle est symbolique et vexatoire, de toute évidence. Elle n'est pas spécialement décriée, il faut bien le dire, dans les sources arabo-musulmanes, mais elle est mentionnée. De même, le système judiciaire présente des similarités dans les deux espaces. Les musulmans sont jugés par un cadi qui est désigné par ou avec l'accord des hautes villes. C'est précisé pour la ville de Tripoli en particulier. Mais en Ifriqiya, son rôle est plus important parce qu'il va aussi juger les chrétiens. C'est précisé pour Tripoli. Alors, on imagine que sont exclus évidemment toutes les affaires civiles. En revanche, donc, système juridique qui semble équivalent, étant bien entendu qu'en Sicile, les chrétiens sont jugés aussi par des structures ad hoc. Le système politique qui gère les deux espaces, en revanche, est distinct sur un point central. En Ifriqiya, dans les espaces non insulaires, je reviendrai sur les espaces insulaires, apparaît la préoccupation de probablement de ne pas trop bousculer le fragile système en place. Et ce qui est mis donc en place, c'est une large autonomie régionale. Hein, je vous ai mis la citation de Matt King. Ce qui est important, c'est là aussi de voir que les modalités de délégation politique sont les modalités propres à l'islam médiéval. Le souverain envoie robe d'honneur, c'est-à-dire des vêtements qui sont fabriqués par les ateliers royaux et qui marquent le lien entre celui qui en bénéficie et celui qui les lui envoie. D'autre part, des diplômes d'investiture sont envoyés qui listent des conditions à respecter par ceux qui sont investis. Et Matt King souligne à juste titre que ces documents, dont on n'a pas conservé la trace, lient véritablement le souverain de Sicile. Hein, en particulier, il y a un ou deux cas où Guillaume Ier demande à tel ou tel de ses délégués de faire telle ou telle chose, il refuse, hein, en particulier de maudire les Almohades en chair, il refuse en disant « c'est pas dans le contrat, et il ne leur arrive rien ». Donc c'est un contrat qui tient les deux parties. Alors là, il n'y a pas évidemment d'équivalent en Sicile, même si on peut s'interroger hein, sur l'existence d'une autonomie relative, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, au niveau micro-régional, notamment donc au niveau des localités rurales, mais je ne rentre pas ici dans les détails. Troisième point, on a affaire dans les deux cas à une royauté, là j'ai mis deux royautés, mais en fait je me suis un peu emballée, c'est une seule et même royauté, et c'est une manière hein, d'intégrer l'Ifriqiya dans le système politique sicilien. Alors, le titre de roi de Sicile n'a pas été particulièrement discuté. Celui de roi d'Afrique, hein, Rex Africae ou Malik Ifriqiya, a fait couler beaucoup d'encre. Je ne reprends pas tous les détails. Je rappelle simplement hein, que jusqu'à maintenant, on citait un certain nombre d'éléments, des diplômes dont certains disparus, mais jamais avec une titulature vraiment stable. La chronique de l'Historia Sicula, qui parlait de Rex Sicilier Tripoli et Africae. Je précise que Africae, dans ce cas-là, ça peut vouloir dire Mahdia, un poète rouennais du XIIe siècle, l'évocation dans la chronique de Ralph Niger, une chronique islandaise du XIIIe qui mentionnait hein, une épée qui aurait été gravée hein, et qui aurait célébré les hauts faits de Roger et un sceau dont on n'a pas conservé non plus la trace. Alors plus sérieusement et plus concrètement, Matt King a mis en avant une charte de Guillaume Ier, donc rédigée à Naples en 1156. Je ne vous lis pas ce qui est sur la diapo, mais qui donc mentionne cette formule pour désigner le roi. Et également huit chartes rédigées à Molfette, qui est donc près de Bari, et qui présente la caractéristique d'être une localité qui est restée loyale au souverain sicilien tout au long des années 1150. On est là dans des chartes, des documents privés, hein, notariés, établis entre 1154 et 1160, essentiellement qui traitent d'achats et de ventes de biens mobiliers. Et on date ces actes, en fait, par la référence à l'année de règne de Guillaume, en mentionnant donc les expressions que vous voyez sur la diapo. Alors, il ne s'agit pas du tout de titulature officielle, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'écho qu'ont pu avoir ces opérations ifriquiennes, hein, au-delà, disons, simplement du cercle de la cour, puisqu'on savait déjà hein, que, notamment, Grisante avait introduit dans une stèle quadrilingue des formules qui renvoyaient donc au Malik Ifriqiya. Enfin, deux pièces commémoratives sont frappées, donc au nom de Roger II et de Guillaume Ier. Vous avez les dates sur la diapo. Et ici, en fait, il n'est pas question de Malik Ifriqiya, il est question, on reprend exactement le titre qui est celui des souverains siciliens sur les monnaies siciliennes. C'est-à-dire qu'on l'appelle Malik, et par ailleurs, donc roi simplement, ce qui n'est pas très étonnant, hein, puisque dans la conception islamique, il n'y a pas de territorialisation du pouvoir, en fait. Ça, c'est une déformation, une adaptation sicilienne, lorsque ça apparaît. Mais donc, c'est assez logique. Et par ailleurs, figure leur lakab, c'est-à-dire leur surnom de règne, Al-Murtaz Billah, donc le puissant par Dieu pour Roger, et Al-Hadi Billah, le guidé par Dieu pour Guillaume Ier. Donc là, on a exactement en fait hein, les mêmes titulatures, mais qui sont assumées pour l'Ifriqiya, puisque ces pièces sont expressément frappées en Ifriqiya. J'ai presque fini, hein, j'avance. Alors, qu'en est-il de la logique militaire et spatiale? Alors, je rappelle ce qu'avait avancé Bresque, qui, à mon avis, tombe sous le sens, c'est qu'on a, de la part des hautes villes, une politique de contrôle des détroits. Donc, une politique de contrôle des détroits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça exige qu'on contrôle aussi bien sa propre rive que la rive opposée. Et c'est ce que les hautes villes vont faire aussi avec l'Ifriqiya. Ils l'ont fait par des alliances jusqu'à une certaine date. Quand ces alliances ne suffisent plus, en quelque sorte, hein, ils vont mettre pied sur la rive opposée. Alors cette logique se retrouve évidemment pour le détroit de Messine, mais là on est au cœur du royaume, mais il se retrouve pour le détroit d'Otrante. Alors j'y reviens pas, hein, je vous ai mis les choses sur la diapo. Vous voyez que c'est une politique qui est suivie de la fin du XIe siècle à la fin du XIIe siècle, sans discontinuer. Et en gros, ils font donc la même chose avec l'Ifriqiya. Dans les deux cas, et ça c'est une spécificité qu'on ne retrouve évidemment pas en Sicile, ce sont, si vous voulez, des emporias qui sont contrôlés. Ce sont souvent des ports de commerce, des ports importants, et on n'avance pas hein, à l'intérieur des terres. Dans le cas de l'Ifriqiya, ce qui n'est pas mentionné pour Durazzo ou Raguse, sont évoquées des garnisons mixtes, donc composées de chrétiens et de musulmans locaux. Alors ça ne tranche pas, ça pourrait étonner, mais ça ne tranche pas tellement avec la politique royale, hein, qui était de mener des armées mixtes, et ce, dès la fin du XIe siècle. Je n'y insiste pas, hein, mais on a énormément d'exemples d'interventions de ces armées mixtes. On les retrouve au XIe siècle. Elles incluent donc des combattants qui sont des combattants musulmans, Sarrakeni dans les sources. On peut se demander d'ailleurs s'ils ne sont pas intervenus en Ifriqiya, même si ça n'est pas mentionné, mais ce qui est sûr, donc, c'est qu'on a des garnisons mixtes. On a des mentions de fortification de lieux, puisque c'était une des autres questions qui étaient posées par les organisateurs. C'est le cas en particulier à Tripoli, hein, c'est mentionné par Ibn al-Athir, avec fortification de murs, fossés creusés. Pour l'essentiel, les traces de ces fortifications, y compris à Badia, qui pourraient être liées avec la période normande, ont disparu. De ce point de vue, je mentionne un dernier point. Il y a une distinction spatiale entre côte et île. Les îles sont tenues par un gouvernement direct, jamais indirect. Ça, c'est très clair. On le voit pour Djerba, et on le voit en utilisant notamment des sources qui sont des sources ibadites, qui montrent que les institutions collectives ibadites ne fonctionnent pas, à l'époque. On le voit aussi pour Malte et Gozo, où un gouvernement direct, je peux y revenir si vous voulez, est mis en place. Dernier point, la logique économique. Là, je vais vite, c'est des choses qui ont été bien étudiées. Alors, elle est importante dans le cas de la Sicile, hein, puisqu'elle permet à Robert Guiscard et Roger, en quelque sorte, d'avoir accès à des ressources à un moment où ils sont dans une situation un peu délicate. On retrouve cette dimension économique pour l'Ifriqiya, mais elle n'est pas du tout agricole. elle est uniquement commerciale. Alors, deux choses, l'Ifriqiya est le débouché, est un débouché essentiel des céréales siciliennes, notamment parce qu'on est dans des périodes de crise et de famine. Et d'autre part, ce qui est en jeu, c'est non seulement donc, la sécurité de l'île sicilienne, mais aussi la circulation économique. Et ça, c'est très clair, notamment dans les relations, dans la correspondance entre Sicile et Fatimide. Ce qui est clair aussi, et ça a bien été montré par David Aboulafia, c'est qu'en fait, la politique sicilienne va aboutir à un renversement en faveur de nouveaux acteurs économiques. Jusque-là, on voit assez présent les Juifs, notamment de la Géniza, hein, de l'Empire fatimide, qui sont poussés dehors au moment de l'intervention des Hautes-Villes et qui le décrivent dans leurs lettres, alors que vont prendre pied en Ifriqiya les Génois et les Pisans, hein, favorisés donc par la politique des Hautes-Villes. Donc il y a clairement une dimension économique à cette affaire. Donc pour conclure, et pour revenir à la pacification, ici, si on peut parler de pacification, il s'agit essentiellement de sécuriser la zone, hein, de sécuriser la Méditerranée centrale et la Sicile. Ça ne se fait pas que par la force, ou ça ne se fait par la force qu'en dernier recours. On insiste d'abord sur les alliances pour maintenir l'ordre et pour co-gérer cet ordre. Y compris lorsqu'il y a domination, elle est indirecte et elle fait toute sa place à des enjeux économiques, mais aussi à une dimension religieuse, même si celle-ci n'est pas le moteur de cette prise de contrôle de la côte ifriquienne. Voilà.
Merci beaucoup, Annie. Je reprends très vite la parole. Merci beaucoup. Je crois qu'on a bien vu à quel point, finalement, il y a beaucoup de comparaisons, même si, comme tu as commencé à le dire, la période de domination, si je peux utiliser ce terme de domination, est beaucoup plus courte en Ifriqiya qu'en Italie du Sud et en Sicile. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions. Est-ce que je passe le micro ou vous pouvez vous en occuper ? Merci beaucoup.